Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé mâle et femelle. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse, et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
« Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 18 Bahman 1399 du calendrier iranien, 6 février 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Blinken discute de l'accord avec l'Iran avec les ministres britanniques, français et allemands. L'Iran lancera la vaccination contre la COVID-19 dans les prochains jours, a déclaré le président Hassan Rouhani. La valeur des produits pétrochimiques de l'Iran atteint 25 milliards de dollars, a annoncé le gouvernement. Et la CPI se dit compétente pour enquêter dans le territoire palestinien. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'Iran lancera sa vaccination contre la COVID-19 dans les prochains jours. Le président Rouhani a ajouté que les priorités pour recevoir le vaccin seront déterminées par le ministère de la Santé. Cependant, a-t-il souligné, le personnel médical et les personnes âgées sont les premiers groupes à être vaccinés. Téhéran a reçu jeudi son premier lot de vaccins de fabrication russe et prévoit d'en importer davantage d'ici la fin du mois de mars. M. Rouhani a affirmé cependant que l'Iran accordait toujours la priorité à la production de vaccins et poursuivrait ses efforts pour fournir des vaccins indigènes au printemps et en été. Il a également exhorté les Iraniens à accorder plus d'attention aux protocoles sanitaires. Vendredi, les autorités ont imposé de nouvelles restrictions en raison d'une légère augmentation du nombre d'infections. L'Iran a jusqu'à présent enregistré plus de 1,4 million de cas de coronavirus et plus de 58 000 décès. En réponse aux propos du président américain Joe Biden concernant la volonté de la nouvelle administration américaine pour mettre fin à la guerre au Yémen, l'ambassadeur d'Iran à Sanaa a déclaré « Nous ne sommes pas optimistes quant à ce qu'ils disent ». Hassan Irlou a écrit sur son compte Twitter « Certes, le nouveau gouvernement américain a une politique différente de celle du précédent gouvernement, essaie d'imposer une présence politique et militaire directe des États-Unis au Yémen, comme cela s'est produit en Irak et en Syrie. Le conseiller américain à la sécurité nationale a annoncé le 4 février l'approche du nouveau président Joe Biden pour arrêter le soutien de Washington à la guerre au Yémen. En 2021, la production de l'industrie pétrochimique de l'Iran atteindra 100 millions de tonnes pour une valeur de 25 milliards de dollars, a déclaré le premier vice-président de la République islamique d'Iran. Eshar Jahangiri a déclaré samedi lors de son déplacement dans la province de Kermanshah que l'industrie pétrochimique de l'Iran est l'un des moteurs les plus importants du développement économique du pays. Pendant la guerre économique des États-Unis contre l'Iran, lorsque les exportations pétrolières étaient en difficulté, c'est l'industrie pétrochimique qui a répondu aux besoins du pays en devises étrangères, a ajouté M. Jahangiri. Les Américains pensent que s'ils coupent l'artère pétrolière, ils peuvent détruire l'Iran. Mais les efforts et le courage des fonctionnaires du ministère du pétrole ont fait échouer les plans des Américains. Pourtant, les sanctions nous ont fait perdre 100 milliards de dollars de revenus pétroliers, ce qui a créé ces problèmes économiques pour le peuple iranien, a souligné le premier vice-président de la République islamique d'Iran. La Cour pénale internationale CPI s'est déclarée compétente pour juger d'éventuels crimes de guerre commis dans les territoires palestiniens, ouvrant la voie à de possibles enquêtes malgré les objections d'Israël. Les magistrats de la CPI ont déclaré que leur décision s'appuyait sur les documents fondateurs de cette cour basée à La Haye. La CPI a estimé que sa juridiction territoriale en Palestine s'étendait au territoire occupé par Israël depuis 1967, à savoir la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Quds orientale. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a quant à lui salué un jour historique et s'est dit prêt à coopérer avec la CPI. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, le Hamas, a décrit la décision comme un développement important, exhortant la Cour à enquêter sur les crimes de guerre israéliens. Les États-Unis désapprouvent la décision de la CPI, a tweeté le porte-parole du département d'État américain Ned Price. Amnesty International a estimé que la décision de la Cour marquait un pas depuis longtemps vers la justice pour les victimes. Amnesty International a déclaré que les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité avaient échappé à la justice pendant plus d'un demi-siècle dans les territoires palestiniens. L'Organisation des Nations Unies a salué le plan américain de révoquer la désignation du mouvement Ansar Allah au Yémen comme organisation terroriste. Le porte-parole de l'Organisation des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a déclaré que cette décision aidera à fournir des secours à des millions de Yéménites qui ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Le secrétaire d'État américain a officiellement informé le Congrès de la décision de l'administration Biden de retirer le mouvement Houthi de sa liste noire. Il dit que la décision fait suite à un examen complet de la désignation de dernière minute par l'ancienne administration de Donald Trump. Le département dit que le renversement est une réponse à la crise humanitaire au Yémen. Washington a également promis de mettre un terme à son soutien à la guerre menée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis contre le Yémen. Les Nations unies et les organisations humanitaires avaient averti que cette désignation pousserait des millions de Yéménites dans une famine à grande échelle. Et enfin, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, salue la nomination d'un conseil exécutif intérimaire en Libye. En saluant les résultats de la réunion des partis libyens à Genève et de la formation du conseil exécutif intérimaire libyen, Saïd Khatibzadeh a émis l'espoir de voir le nouveau gouvernement intérimaire remplir les conditions nécessaires pour la tenue des élections en Libye, a rapporté le service de presse du ministère iranien des Affaires étrangères. Il a poursuivi « Nous espérons que le gouvernement intérimaire libyen balisera le terrain pour rétablir la stabilité, la paix, la croissance et le développement en Libye sur la base du respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et loin de l'ingérence étrangère. » La Libye a entamé samedi une nouvelle phase de transition après l'élection d'un exécutif uni et intérimaire qui devra mettre en place un gouvernement, préparer le scrutin national prévu en décembre et mettre fin à une décennie de chaos. 10 ans après la révolution libyenne, le pays reste englué dans une crise politique majeure. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a discuté de l'Iran avec ses homologues britanniques, français et allemands alors qu'il cherche à relancer l'accord nucléaire avec la République islamique d'Iran. Nous venons d'avoir une conversation approfondie et importante sur l'Iran pour gérer ensemble les défis nucléaires et de sécurité régionale, a déclaré vendredi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur Twitter. La nouvelle administration du président américain Joe Biden tente d'explorer comment restaurer l'accord nucléaire de 2015 entre la République islamique d'Iran et les grandes puissances mondiales. Le plan global d'action conjoint a été signé en 2015 entre l'Iran et 6 grandes puissances du monde, à savoir les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Et il a été ratifié sous la forme de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, les États-Unis, sous l'ancien président Donald Trump, se sont retirés unilatéralement du plan global d'action conjoint au mois de mai 2018 et ont rétabli les sanctions anti-iraniennes et ont ciblé la nation islamique de l'Iran avec un embargo économique brutal que la Maison-Blanche de Trump a qualifié de campagne de pression maximale. Le sort du plan global d'action conjoint est désormais en jeu après que les co-signataires européens, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, n'ont pas contré les sanctions comme l'exige l'accord, ce qui a poussé Téhéran à suspendre une partie de ses engagements en représailles. Joe Biden s'est engagé à rejoindre l'accord multilatéral si l'Iran revient au respect de l'accord. L'Iran, cependant, dit que c'est Washington qui devrait faire le premier pas en levant les sanctions. Puis Téhéran reviendra à ses engagements inscrits dans le pacte nucléaire. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires européens, a déclaré le secrétaire d'État américain. Vendredi, le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a refusé de commenter le contenu de la réunion virtuelle d'Anthony Blinken avec ses homologues britanniques, français et allemands. Mais il a déclaré que Washington voulait s'assurer que les partis occidentaux travailleront en étroite collaboration en ce qui concerne le dossier nucléaire iranien. Un responsable américain a également déclaré que la réunion entre Blinken, Le Drian, le Britannique Dominic Raab et l'Allemand Heiko Maas couvrirait également la pandémie de coronavirus, la Russie, la Chine, le Myanmar et la situation climatique du monde. Le Conseil de la sécurité nationale des États-Unis a convoqué vendredi une réunion à laquelle ont participé de hauts responsables américains. La réunion d'aujourd'hui fait partie d'un examen politique en cours. Elle n'est pas décisionnelle, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, sur Twitter. Par ailleurs, Robert Malley, nouvel envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran, avait déclaré mardi que Washington cherchait à supprimer la soi-disant campagne de pression maximale contre la République islamique d'Iran. Malley a déclaré au quotidien italien Corriere della Sera que conférer un accord plus large ne serait à l'ordre du jour qu'après son retour au plan global d'action conjoint. L'envoyé américain a également affirmé que le gouvernement de Joe Biden supprimera la pression maximale contre l'Iran et s'efforcera de faire pression sur Téhéran par la diplomatie.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Le président français Emmanuel Macron a suggéré d'inclure l'Arabie saoudite dans le processus des négociations sur un accord concernant le nucléaire iranien. Une position qui, selon de nombreux analystes, a peu d'avenir dans le cadre de ces négociations. En réaction à cette proposition du président français, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a rejeté en effet la participation de toute nouvelle partie, voire tout nouveau dialogue. Pour Khatibzadeh, en effet, l'accord nucléaire iranien est un document international multilatéral qui a été approuvé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité et donc ne pourra pas faire l'objet de nouvelles négociations. L'Union européenne aussi a réagi à cette proposition d'Emmanuel Macron et a souligné que cette proposition, en effet, relevait de son opinion personnelle et a réitéré son engagement envers l'accord nucléaire de 2015. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser, en effet, les principaux objectifs et enjeux de cette proposition du président français, de cette logique clientéliste, en effet, d'Emmanuel Macron concernant la participation, en effet, de Riyad aux négociations sur le nucléaire iranien. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le président français Emmanuel Macron estime que des alliés régionaux, y compris l'Arabie saoudite, doivent prendre part aux négociations d'un nouvel accord avec l'Iran, relate la chaîne de télévision Al-Arabiya. Le dialogue avec l'Iran sur un nouvel accord nucléaire sera strict. Il devra inclure les alliés de la France dans la région, y compris l'Arabie saoudite, a déclaré il y a une semaine le président français, dont les propos ont été repris par la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya. De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté samedi toute nouvelle négociation sur l'accord nucléaire ou modification de ses participants après que le président français Emmanuel Macron a déclaré que toute nouvelle négociation sur l'accord devrait inclure l'Arabie Saoudite. Macron aurait-il oublié l'implication directe de Mohamed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste Khashoggi et le massacre des civils au Yémen? L'accord nucléaire est un accord international multilatéral ratifié par la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'est pas négociable et les parties sont claires et inchangeables, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh, cité par les médias d'État. Les États-Unis se sont retirés de cet accord et l'Europe n'a pas été en mesure de le maintenir. Et s'il y a une volonté de relancer et de maintenir l'accord, la solution est simple. Que les États-Unis reviennent au PGAC et qu'ils lèvent toutes les sanctions imposées sous l'administration Trump, a-t-il affirmé en appelant le président français à faire preuve de retenue. En effet, à peine quelques heures après l'investiture de Biden au poste du président US, les coups de fil de Riyad à Paris se sont soudain multipliés. S'il est vrai que les relations Riyad-Paris sous l'ère de Trump ne sont jamais allées au-delà de colossaux contrats d'armement destinés à massacrer les Yéménites, les choses commencent à changer sous Biden. Certes, le nouveau président américain veut un accord nucléaire balistique avec l'Iran, auquel Téhéran a répondu en mettant le cap sur l'uranium à 90%, mais Biden veut cet accord sans tenir compte de ces milliards de pétrodollars dépensés ces quatre dernières années par Riyad dans le strict objectif de mettre au pas l'Iran. Les propos d'Emmanuel Macron ont suscité une vague de réactions. Les politiciens et les journalistes qui ont invité le président français à aborder en priorité l'affaire de l'invasion du Yémen par l'Arabie Saoudite plutôt qu'à envisager d'intégrer Mohamed Ben Salman au P5+1. Pour eux, la région est aujourd'hui plus menacée par le wahhabisme que par le programme nucléaire pacifique de l'Iran.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles M. Luc Michel, géopoliticien, et depuis Damas, Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à Luc Michel.
Alors, dans sa dernière prise d'opposition sur le nucléaire iranien, le président français Emmanuel Macron a suggéré d'inclure ses partenaires régionaux, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, dans le processus des négociations sur le nucléaire iranien. Une proposition surprenante de la part de la France, d'Emmanuel Macron, car jusqu'à présent, aucun des acteurs, en effet, n'avait avancé une telle proposition. À quelle logique obéit cette proposition de la France d'Emmanuel Macron, Maître Develet?
Écoutez, je pense qu'il faut y voir deux ou voire trois explications possibles. La première, c'est pour des raisons de politique intérieure, les choses ne vont vraiment pas très bien en France, la France d'Emmanuel Macron. Un déficit démocratique, un rapport officiel, semi-officiel a d'ailleurs été publié il y a quelques jours, qui qualifie la France, je cite, de « démocratie défaillante ». Donc c'est une opportunité pour Macron, quelque part, de rehausser son standing, hein, son statut, de se rendre à nouveau pertinent dans l'arène des relations internationales. Et ça ne mange pas de pain, entre guillemets. Donc, quelle que soit la réaction qui puisse en découler, ça lui permet de continuer à communiquer, puisque c'est ce qu'il fait avant tout, il communique. La deuxième raison, c'est certainement les craintes à Riyad de la nouvelle administration américaine. Et ce faisant, on peut penser que la direction saoudienne a sollicité Paris pour essayer de se présenter comme un partenaire fiable qui puisse faire perdurer, si je puis dire, la relation de longue date qui existe entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. On sait que Joe Biden, durant sa campagne, il a répété plusieurs fois qu'il tiendrait l'Arabie Saoudite, si je puis dire, à certains standards. Donc, c'est une façon pour effectivement le prince héritier d'essayer de se racheter une conduite, lui aussi, à peu de frais. En ce qui concerne la proposition d'Emmanuel Macron sur le fond, de toute évidence, elle n'a aucun sens. La première, pour la simple et bonne raison, c'est un accord qui s'inscrit dans la boîte à outils du régime général de non-prolifération nucléaire. Donc, comment pouvoir évoquer l'addition, déjà, comment on dit en anglais, on its face, de d'acteurs régionaux supplémentaires, sans évoquer, avant toute chose, l'arsenal nucléaire du régime israélien? Ça n'a absolument aucun sens. En cela, je comprends parfaitement la réaction du officiel de la République islamique d'Iran, qui est de balayer cette proposition, entre guillemets, d'un revers de la main.
Merci pour ces précisions, Maître Develle. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite se rendre à Bruxelles pour rejoindre M. Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue Develle, que j'ai toujours plaisir à retrouver.
Maître Develle a évoqué, a rappelé la position officielle, la réaction officielle de la République islamique d'Iran à la proposition du président français. En effet, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exhorté M. Macron à s'abstenir de prendre des positions hâtives et mal avisées. M. Khatibzadeh a rappelé que là, il s'agissait d'un accord international multilatéral ratifié, confirmé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. Ceci étant dit, M. Michel, est-ce que cet accord pourrait faire l'objet de nouvelles négociations et faire l'objet de la participation, en effet, des partenaires, des alliés régionaux de la France, dont l'Arabie Saoudite?
Il y a deux explications. Il y a tout d'abord une explication qui est purement le sabotage. On a un peu l'impression que toute une série de partis ne veulent pas du retour aux accords de Genève. Et l'Iran a été clair depuis le début. Il n'est pas question de renégocier, il n'est pas question d'accepter de nouveaux partenaires. Ça a été précisé comme étant des positions non discutables, non négociables. À partir du moment où on tente de les réintroduire sur la table, on repousse évidemment l'idée même de remettre en route les accords de Genève. Maintenant, il y a quand même quelque chose de plus profond que ça. Il faut tout d'abord savoir que les États-Unis et la France sortent d'une année de brouille due à la politique de Trump, en particulier en Afrique et en mer Rouge. Et dès lors, actuellement, les Français négocient avec les Américains. Ils négocient pour une nouvelle alliance, si on peut dire. Et dans cette optique, la France doit justifier la voie géopolitique. La France a déjà un axe, elle fait un axe avec les Émiratis. Ce sont deux puissances maritimes. Et la France actuellement se redéfinit, l'impérialisme français. Il y a un livre en particulier qui a théorisé cela. C'est le livre de l'amiral Condefi, qui est sorti il y a quelques mois. Et la France veut se repenser comme une grande puissance maritime. On se rappellera qu'elle a le deuxième domaine maritime mondial, avec plus de 10 000 kilomètres, ce qu'on appelle les confettis de l'Empire. Et donc, elle est liée aux Émiratis, qui sont eux-mêmes une puissance maritime émergente à la suite de la guerre du Yémen. Ils sont liés dans un axe Dubaï-Paris. Et bien entendu, la continuité de cet axe, c'est d'en faire un axe Dubaï-Paris-Riyad, c'est-à-dire d'étendre cette alliance maritime à une puissance continentale, puisque la péninsule arabique est en grande partie dominée, à part l'Iran, par les Saoudiens. On ne sait pas très bien ce qui, dans cette affaire, le dispute de la volonté de saboter ou pas. On se rappellera quand même que quand on négociait les accords de Genève, c'était du temps de M. Fabius. On disait de Fabius qu'il était le représentant d'Israël, venu saboter les négociations à la table de négociation. C'est un mois plus pour l'idée. Je ne sais pas s'il faut voir des grandes combinaisons géopolitiques. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une part de vanité et que cette vanité de Macron est utilisée par des gens qui ne veulent pas d'accord.
Merci infiniment, Monsieur Michel, pour ces éclairages. Restez avec nous. Maître Develay, selon certains observateurs, Monsieur Macron suit un double objectif en avançant une telle proposition. D'une part, satisfaire le client saoudien, qui est l'un des principaux consommateurs du savoir-faire français en matière d'armement, et d'autre part, un moyen, en effet, pour la France de se positionner et de combler en partie le vide stratégique, géostratégique, qui est laissé par Washington. Votre commentaire, Maître Develay.
De toute évidence, la France cherche à rester pertinente sur le plan international. Le problème, c'est qu'elle n'a pas les moyens de souveraineté politique nécessaires pour que sa parole porte dans l'arène internationale. Et donc, ce faisant, en étant toujours à la remorque d'intérêts étrangers ou d'intérêts transnationaux purement économiques, d'oligarchie de par leur nature, la politique étrangère de la France, dans son décryptage, est devenue pour beaucoup d'observateurs très difficile à comprendre et donc elle est forcément amenée à être perçue avec méfiance. De toute évidence, c'est avant tout une question, comme le disait Luc Michel, de garder le client saoudien satisfait, parce que jusqu'à preuve du contraire, les quelques pays qui achètent encore du matériel français incluent dans leur listing l'Arabie Saoudite, ce qui expliquerait peut-être pourquoi effectivement Macron a fait cette déclaration imprudente. Mais encore une fois, je pense que c'est quelque part une illusion de penser qu'il y a une grande stratégie régionale en ce qui concerne la France. La France réagit un peu ad hoc, ponctuellement, dossier par dossier, en essayant toujours de se trouver un strapontin d'urgence pour pouvoir vendre quelques armes ici et là. Mais tant qu'elle n'aura pas développé, redéveloppé, récupéré une politique étrangère cohérente, et donc à partir de là, si elle doit être cohérente, elle doit être avant tout souveraine, basée sur des intérêts objectifs, la France ne pourra pas déployer son influence d'antan.
Merci encore, Maître Develay. Monsieur Michel, concernant la politique étrangère d'Emmanuel Macron et plus précisément sa politique envers le nucléaire iranien. Là, il paraît que cette politique contraste non seulement avec cette déclaration imprudente qu'on disait Maître Develay, contraste non seulement avec le droit international, avec la logique même de l'accord nucléaire de 2015, mais aussi avec la politique étrangère de l'Union européenne, parce que là, l'Union européenne a réagi, a estimé que cette déclaration relevait de l'opinion personnelle d'Emmanuel Macron et a réitéré son engagement en effet envers l'accord nucléaire. Alors, dans quelle mesure, par cette déclaration imprudente et surprenante, M. Macron en effet pourrait non seulement se remettre en cause la politique étrangère de la France, mais aussi révéler au grand jour en effet ses écarts avec l'Union européenne?
Le problème de la France en Europe, c'est que la France n'a plus les moyens géopolitiques de la puissance qu'elle voudrait être. Dans les années 60, l'Europe a été construite sur un couple franco-allemand. Mais la réunification allemande qui a recréé une grande Allemagne en Europe a fait qu'elle a déséquilibré ce couple. Et aujourd'hui, face à l'Allemagne, mais aussi face à ce qu'on appelle les Américains, la Nouvelle Europe, les Polonais, les Roumains, etc., qui sont fondamentalement anti-français, la France fait sans compte. Ce qui intéresse aujourd'hui la politique étrangère de la France, c'est essentiellement de tenir son rang en Afrique, puisque c'est la condition d'un réside de puissance française. La France est contestée dans son ancien précaré, dans ce qu'on appelait la France-Afrique, mais contrairement à ce que beaucoup d'Africains pensent, la France ne s'est pas effondrée. Elle s'est redéployée en Afrique, elle est particulièrement active, et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur la mer Rouge. C'est la mer Rouge qui est fondamentale pour les Français. Les Français viennent de s'installer au Mozambique et ils ont battu économiquement les Américains. Ils sont en train de s'emparer des gisements de gaz du Mozambique. On parle de 14 milliards immédiats de production. Des usines, des investissements industriels sont prévus par les Français. C'est l'arrivée de la France dans une zone où elle n'était pas présente dans la Corne de l'Afrique. À partir de ce moment-là, il faut contrôler le Mozambique et en même temps tenir le rang vis-à-vis des Américains, parce que la percée économique française, elle s'est faite contre les Américains de ExxonMobil. Les Français ont besoin de l'alliance des Émirats. C'est la première chose. Mais derrière les Émiratis, il y a les Saoudiens. Si les Saoudiens n'étaient pas là, les Émiratis ne seraient pas une puissance. Il y a d'ailleurs une rivalité entre MBS et MBZ, Ben Salman et Ben Zayed. À partir de ce moment-là, l'intérêt de Paris, c'est de jouer le cavalier seul, c'est pas du tout de tenir compte des intérêts de l'Europe. La France est un peu concernée par, notamment par les intérêts de l'Allemagne en Europe, c'est de renforcer cette présence française en mer Rouge. Ça peut évidemment expliquer cette position. Indépendamment, je vous le dis, moi, personne ne me donne l'idée. J'ai l'impression que, pas plus que les Israéliens ne veulent un retour aux accords de Genève, la France n'en peut pas donner.
Merci encore, M. Michel. Une toute dernière question à Maître Develay. Maître Develay, pourquoi aujourd'hui la voix de la France sur le nucléaire iranien est contestée? Pourquoi elle ne peut pas être entendue, même au sein des alliés européens de la France, d'Emmanuel Macron?
Écoutez, je pense que ça a à voir avec beaucoup de dossiers régionaux dans lesquels la France est impliquée et qui semblent être contradictoires dans la façon dont la France se positionne, tant sur les uns que sur les autres. Encore une fois, on en revient toujours à cette absence de grande vision de ce que la France doit être, souhaiterait contribuer. Et force est d'avouer que ces dossiers, ces positions contradictoires ont rendu beaucoup d'observateurs méfiants de la France quant à ce qu'elle représente et la façon dont elle est incarnée aujourd'hui. Donc, c'est là, pour faire court, la réponse à votre question. La France a abandonné son désir de puissance en tant que État souverain. Elle s'est remorquée à des lubies idéologiques et des visions utopiques de ce que l'Europe, l'Union européenne devrait être. Luc Michel l'a souligné, la réelle politique l'a rattrapée et elle se retrouve maintenant dans une espèce de dissonance cognitive qui se traduit par effectivement des approches dossier par dossier qui ne laissent pas entrevoir une cohérence d'ensemble.
Monsieur Michel, il nous reste 2 minutes, très rapidement s'il vous plaît. Quelles seront les retombées de cette position contradictoire de la France, de la politique étrangère de la France sur le plan régional et international?
Écoutez, la France est en train de plus en plus de s'isoler. Il y a un phénomène qu'on appelle l'arrogance française, c'est un fameux livre qui est sorti il y a quelques années. C'est un livre qui concerne l'Afrique, mais en fait, la France a cette arrogance vis-à-vis de tous ses partenaires. Elle indispose, on sait que Mme Merkel est particulièrement indisposée par Macron. C'est cela qui se passe. La France, c'est une, elle est encore dans les rêves. Déjà du temps de Gaulle, elle avait de la peine à tenir son rang. Et depuis les années Mitterrand, les années Chirac, les années Sarkozy, les années Hollande, la France n'a jamais cessé de faire une glissade, une dégringolade géopolitique. Aujourd'hui, le roi est nu. Et les prétentions françaises à une grande puissance, elles sont contestées par la réalité. Ce que la France voudrait imposer des positions qu'elle n'a plus les moyens d'assurer. C'est cela qu'il faut comprendre, que ce soit dans le nucléaire iranien, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la guerre du Sahel, que ce soit face à la Russie, la France, c'est une puissance sur le déclin qui n'a plus les moyens d'exister.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique depuis Damas. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. La Cour internationale de justice, CCIJ, qui siège à La Haye, a rejeté officiellement à l'unanimité mercredi 3 février les exceptions préliminaires à sa compétence soulevée par les États-Unis. Les juges de la plus haute cour de l'Organisation des Nations Unies chargée de différends entre États ont accepté d'examiner une plainte déposée par l'Iran contre les États-Unis concernant la levée des sanctions contre Téhéran. Contrairement à l'opinion des autorités américaines, une majorité de la commission de ces juges, 15 pour et 1 contre, a estimé que la Cour internationale de justice était compétente en la matière. L'Iran a engagé cette procédure en 2018, lorsque l'ex-président américain Donald Trump a décidé d'abandonner l'accord nucléaire signé en 2015, en vertu duquel l'Iran avait accepté de limiter son programme nucléaire. La décision de Trump a été suivie par des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran. Les États-Unis avaient tenté de faire valoir que l'Iran ne pouvait pas fonder cette revendication devant la CIJ sur un traité d'amitié bilatérale conclu en 1955. Cependant, les juges ont estimé que cet accord, signé quelques décennies avant la victoire de la révolution islamique de 1979 en Iran et la forte détérioration des liens entre Téhéran et Washington, pouvait être utilisé comme base de la compétence de la Cour. Washington avait officiellement mis fin au traité d'amitié fin de 2018 après que la CIJ lui a ordonné d'alléger les sanctions sur les produits à caractère humanitaire. D'autres objections américaines à l'affaire ont également été rejetées, ce qui signifie que la demande de l'Iran va maintenant passer à une audience sur le fond. Une décision finale pourrait probablement prendre encore plusieurs années. Téhéran a salué comme une victoire juridique la décision de la CIJ qui s'est dite compétente pour recevoir la demande de Téhéran d'annuler les sanctions rétablies par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump. Une nouvelle victoire pour l'Iran, a écrit sur Twitter le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, ajoutant que la CIJ avait rejeté toutes les objections préliminaires des États-Unis dans l'affaire portée par l'Iran sur les sanctions américaines illégales prises à son encontre. Téhéran salue la décision de Bagdad de lancer une poursuite judiciaire contre l'ancien président américain Donald Trump et son secrétaire d'État Mike Pompeo. En visite à Téhéran, le ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hussein a rencontré de ce mercredi 3 février le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, le vice-amiral Ali Shamkhani. Au cours de cette rencontre, Ali Shamkhani a salué les bonnes relations entre Téhéran et Bagdad et souhaité l'application complète et rapide de tous les accords et contrats signés par les deux parties. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a souligné qu'il existait une étroite interdépendance entre la sécurité, la stabilité et la prospérité de l'Iran et de l'Irak, avant d'ajouter que la présence militaire des puissances étrangères, notamment les États-Unis, était à l'origine de l'instabilité et des crises innombrables de l'Asie de l'Ouest. Ali Chamkhani a plaidé pour l'application le plus tôt possible de la loi approuvée par le Parlement irakien portant sur l'expulsion des forces militaires américaines d'Irak. Téhéran salue la décision de Bagdad de lancer une poursuite judiciaire contre l'ancien président américain Donald Trump. Et son secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré Chamkhani en déclarant que l'Irak et l'Iran feraient tout pour traduire en justice les auteurs et commanditaires de l'assassinat du général martyr Rassem Soleimani. Le commandant de la force Quds et d'Abu Mahdi al-Muhandes, numéro 2 de Ashtal Shabi. De son côté, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hossein, a rendu hommage au rôle de premier plan de la République islamique d'Iran dans le renforcement de la paix et de la sécurité dans la région. En outre, le ministre irakien des Affaires étrangères a rencontré son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Les deux hommes ont examiné en détail les activités de la Commission économique mixte irano-irakienne, les activités des marchés communs dans les zones frontalières, la circulation des hommes d'affaires et des pèlerins chiites entre les deux pays, le transit des marchandises et les affaires interbancaires entre l'Iran et l'Irak. L'Iran a testé un nouveau lanceur de satellite. Le ministère iranien de la Défense a annoncé, c'était ce lundi 2 février, avoir testé un nouveau lanceur de satellite équipé de son plus puissant moteur à combustible de solide, a rapporté la télévision d'État. Il s'agit du premier lancement du lanceur de satellite hybride Zuljanar, a dit Ahmad Husseini, porte-parole de l'unité spatiale du ministère iranien de la Défense, précisant qu'il s'agissait d'un test. Ce lanceur à trois étages peut faire concurrence aux autres lanceurs actuels dans le monde. Il est composé de deux étages de propulsion solide et d'un seul liquide, a-t-il ajouté. Dans le même temps, le ministre iranien des Communications a souligné que l'Iran sera bientôt parmi les cinq plus grandes puissances spatiales du monde. L'avenir spatial de l'Iran est clair. Dans les prochaines années, l'Iran sera parmi les cinq premiers pays dans le domaine spatial mondial. S'est félicité mardi le ministre iranien des Communications, Mohammad Javad Zarif Jahromi. Au Yémen, le chef du mouvement de la résistance yéménite, Ansar Allah, a affirmé que l'attachement du peuple yéménite au principe de la foi et des enseignements divins lui a permis de résister pendant 6 ans face à l'agression et au siège les plus durs de son histoire. Sayyed Abdelmalek Al-Houssi a félicité la nation islamique à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de la vénérable Fatima al-Zahra, la fille du noble prophète de l'islam. Que Dieu le bénisse, lui et les siens. Et d'ajouter, l'anniversaire de Notre-Dame al-Zahra est en effet digne d'être la journée internationale des femmes croyantes. Agression israélienne contre de Kunetra. La DCA intercepte la majorité des missiles hostiles. Les systèmes de défense anti-aérien de l'armée syrienne ont repoussé, c'était dans la nuit de mercredi 3 février, une agression israélienne aux missiles contre le sud de la Syrie. L'agence officielle syrienne Sana a rapporté que le gouvernorat de Kunetra, situé dans le sud du pays, a été la cible d'une frappe israélienne. L'ennemi israélien a mené une agression aux missiles air-sol et sol solide depuis le Golan syrien occupé contre certains objectifs dans la région du sud. Les systèmes de défense antiaérien ont intercepté et abattu la majorité de ces missiles hostiles, a précisé une source militaire à l'agence Sana. Et d'ajouter, cette agression a causé des dégâts matériels. Les précédentes agressions israéliennes contre la Syrie remontent au 22 janvier et ont fait 4 morts, membres d'une même famille. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.